Donc ce soir, c'est le thème du repos qui fait partie de notre thème de l'année sur le travail. C'est un des sous-thèmes. Et comme sous-titre, c'est donc le sabbat et les loisirs. Alors c'est deux choses qui ne sont pas tout à fait identiques, mais dans les deux, on retrouve cette idée de se reposer. Le repos, nous en avons besoin, et Dieu le sait. D'ailleurs, nous sommes créé pour vivre une journée et puis ensuite se reposer la nuit. On dort, je ne sais pas, peut-être en moyenne, je dirais, entre 7 et 8 heures. Il y en a qui dorment plus. Il paraît qu'en prenant de l'âge, on se repose moins. On a besoin de moins de sommeil. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Je ne l'ai pas encore expérimenté. Voilà, dans le règne animal, on observe que certains animaux se reposent énormément. Par exemple, le lion, il passe entre 19h et 20h par jour à dormir, à faire la sieste. Le koala, c'est encore plus. Je crois que c'est 23h sur 24, donc en fait, il est réveillé qu'une heure. Et il y en a qui dorment très peu, comme la girafe, qui dort, je crois, 40 minutes, quelque chose comme ça. Nous avons besoin de repos, Dieu le sait. Et on va pouvoir voir cela à travers le thème, donc les thèmes plutôt du sabbat et des loisirs. Et on va commencer par le début. Ah oui, il faut que j'allume le vidéoprojecteur. On va commencer donc par le début de l'Ancien Testament avec un passage qui est dans Genèse 2, les versets 1 à 3. Je vais l'afficher. Alors, Genèse 2, versets 1 à 3. Voilà. Donc ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute l'armée de ce qu'ils contiennent. Au septième jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il cessa en ce jour-là toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le septième jour et il le sanctifia, car en ce jour-là, il cessa toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. À proprement parler, le sabbat n'est pas mentionné dans ce texte. Il est seulement dit que Dieu cesse son travail le septième jour de la création. Mais ce qu'on ne voit pas dans nos traductions françaises, justement, c'est que le verbe qui est utilisé ici, donc deux fois pour dire... qui est dans cette traduction traduit par « cesser » ou dans d'autres traductions par « se reposer », eh bien, c'est un verbe qui a la même racine que le mot « sabbat ». Donc, on a déjà au moins un lien dans ce premier texte des Genèse 2, hein, un lien au moins lexical entre le fait que Dieu cesse son travail de création et la notion de « sabbat », qui viendra donc un peu plus loin. Je vous fais remarquer que dans ce texte, le refrain qui est présent pour les six premiers jours de la création, c'est ce refrain qui dit « il y eut un soir et un matin », ne se trouve pas mentionné ce refrain au septième jour. Ce qui suggère que le septième jour n'est pas fini, qu'il dure, et que c'est un jour qui dure jusqu'à aujourd'hui. Le repos de Dieu du septième jour n'est pas synonyme d'inactivité. Alors oui, Dieu cesse son travail de création. La création est achevée, on pourrait dire. Mais dans le septième jour, Dieu continue à faire exister, à maintenir dans l'existence ce qu'il a créé pendant les six premiers jours. Ce n'est pas quand Dieu se repose, ce n'est pas qu'il est complètement inactif, qu'il ne fait plus rien. Comme par exemple le grand horloger de Voltaire qui dit dans un passage qui est connu, on ne peut que supposer qu'il y a un grand horloger. Mais pour Voltaire, c'était Dieu qui avait créé le monde et puis ensuite qui n'agissait plus du tout vis-à-vis de ce monde. Là, au contraire, on voit que Dieu bénit le septième jour et qu'il en fait un jour sacré. Ça, c'est d'après la Nouvelle Bible Seconde. On peut lire que c'est un jour sacré. La fin de l'œuvre de création de Dieu est un temps béni. Ce qui a été créé peut maintenant être et vivre selon la volonté du Créateur. Et à ce moment-là, toutes les créatures, dont les êtres humains font partie, bien sûr, profitent du bonheur dans ce jardin merveilleux qui est décrit juste après. Tout se passe comme Dieu l'a voulu. Calvin disait que le septième jour, la création entre dans le régime de la providence divine. On n'est plus donc dans la création, on passe comme, en quelque sorte dans une autre ère, celle de la providence de Dieu. Malheureusement, cet état de choses ne dure pas très longtemps, vous le savez, dès Genèse 3, l'homme chute et cela vient tout gâcher. L'humanité qui vivait en harmonie et en communion avec Dieu, jusqu'alors, se rebelle et Dieu juge cette rébellion en maudissant la terre et en rendant pénible le travail, notamment. C'est à ce moment-là que toutes sortes de souffrances ainsi que la mort entrent dans le monde. Se pose alors la question, comment vivre dans le repos du septième jour? Comment retrouver l'harmonie, cette communion avec Dieu, synonyme du repos? Eh bien, nous allons voir un texte, justement, qui mentionne le sabbat. C'est en Exode donc 16, versets 21 à 30, que je vais lire donc maintenant, que vous allez voir apparaître pour la première fois dans la Bible le mot sabbat. Dans Genèse 2, c'était un verbe qui était de la même racine que le mot sabbat, mais ce n'était pas encore le mot sabbat très précisément. Donc là, on est dans la loi, hein, avec Exode 16 déjà. Tous les matins, ils ramassaient donc la manne, chacun la ration nécessaire à sa nourriture. Quand le soleil devenait chaud, elle fondait. Le sixième jour, ils en ramassaient une quantité double, c'est-à-dire environ 8 litres par personne au lieu de 4. Les chefs de la communauté vinrent en informer Moïse, qui leur dit « C'est bien ce que l'Éternel a ordonné. Demain, c'est un jour de repos, le sabbat, qui est consacré à l'Éternel. Ce que vous avez à cuire au four, cuisez-le aujourd'hui. Ce que vous avez à faire bouillir, faites-le bouillir aujourd'hui. Et tout ce qui est en plus, mettez-le en réserve pour demain. » Ils mirent donc le reste en réserve jusqu'au lendemain, comme Moïse l'avait ordonné. Il n'y eut ni mauvaise odeur, ni ver. Moïse leur dit alors, mangez aujourd'hui ce que vous avez mis en réserve, car c'est le jour du repos en l'honneur de l'Éternel. Aujourd'hui, vous ne trouverez pas de manne dehors. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le septième jour, le jour du sabbat, il n'y en aura pas. Cependant, le septième jour, il y eut des gens qui sortirent pour faire leurs provisions, mais ils ne trouvèrent rien. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'obéir à mes commandements et à mes lois ? Considérez donc que si l'Éternel vous a donné le jour du repos, il vous donne aussi le sixième jour de la nourriture pour 2 jours. Le septième jour, que chacun donc reste dans sa tente et que personne ne sorte de chez lui. Ainsi, le peuple se reposa le septième jour. » Donc, c'est la première fois voilà, que le mot sabbat est mentionné. Donc, on n'est même pas encore tout à fait dans la loi. Hein. On est encore dans le désert, hein, lorsque dans cette pérégrination dans le désert du peuple. Hein. On voit là que Dieu est d'ailleurs même assez indulgent dans sa réprimande, hein, pour ceux qui n'ont pas respecté ce qui leur était demandé. Il n'y a pas encore de peine de mort, comme on le verra plus tard. Le non-respect du sabbat entraînait la peine de mort. Là, dans ce texte, ça n'est pas encore le cas. C'est un jour, donc le sabbat, et comment le sabbat est-il décrit? Comme un jour de repos en l'honneur de l'Éternel, en l'honneur du Seigneur. Quelque temps après cet épisode de la manne, la loi est donnée au peuple de Dieu, et notamment le résumé de la loi qui est les 10 commandements. Donc les 10 commandements, vous savez qu'on en a donc 2 versions qui sont très proches l'une de l'autre, une première dans Exode 20, et une deuxième dans le livre du Deutéronome. Et c'est à partir de ce moment-là seulement que le sabbat devient une prescription légale pour le peuple de Dieu. en tant que prescription légale, alors le sabbat a des implications bon, au niveau moral et spirituel, au niveau social, au niveau culturel et cérémoniel. Donc il y a des obligations, des restrictions le jour du sabbat. Mais il y a bien plus qu'une règle seulement par rapport au sabbat. C'est ce que l'homme a perdu dans sa relation avec Dieu, souvenez-vous, cette relation qui a été brisée, et ce repos que l'homme ne peut pas, dans lequel l'homme ne peut plus entrer, ce repos de Dieu du septième jour, eh bien, Dieu le lui redonne, en quelque sorte, à l'homme, un jour sur sept. C'est pas seulement une règle, le sabbat, c'est aussi, déjà, ça commence à rétablir les effets de la chute. Et c'est comme ça, je pense qu'il faut vraiment le voir. Dieu redonne un jour sur sept aux hommes. Parce que la loi est certes contraignante, mais elle est un don de Dieu. Dieu montre sa volonté pour nous, il commence à restaurer ce qui a été brisé dans notre relation avec lui. La loi est un cadeau, car c'est une étape dans le plan divin du salut. Et avec le sabbat, donc, le peuple d'Israël peut vivre un temps de liberté avec Dieu, mettre de côté ses activités, pour remettre Dieu au centre de la vie. Alors, vous avez Exode 20, justement. Exode 20, versets 8 à 11. Donc ça, c'est dans les 10 commandements. « Pense à observer le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire, mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, mais le 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et en a fait un jour qui lui est consacré. » Alors, dans Exode 20, dans le verset 11, là, hein, on a une citation de Genèse 2, justement. Et là où Genèse 2 disait que Dieu a cessé toute l'œuvre de création, Exode 20 dit clairement que Dieu s'est reposé. Dans un autre passage, il est même dit qu'après l'œuvre de création, Dieu a repris son souffle. C'est un anthropomorphisme parce qu'évidemment, Dieu n'a pas besoin de prendre du souffle. C'est une image. Donc ce texte-là d'Exode 20 établit un lien entre le septième jour, le jour du sabbat, et entre le septième jour du récit de la création et le jour du sabbat. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut identifier l'un à l'autre. Il y a un lien, mais il ne faut pas forcément identifier l'un et l'autre en tout point. Le sabbat est comparé au septième jour de la création, pas forcément pour qu'on assimile ces deux jours en tout point, mais pour tout simplement établir un lien. Et ce lien, c'est que Dieu bénit à la fois le septième jour donc de la création, et Dieu bénit aussi le jour du sabbat. En fait, la deuxième partie du verset, là, quand on lit, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et en a fait un jour qui lui est consacré. On pourrait dire, en fait, le Seigneur a béni le sabbat comme il a béni aussi le septième jour de la création. Donc il y a un lien entre les deux. Dans ce passage, on lit 3 fois que le jour du sabbat doit être consacré ou réservé à Dieu. C'est ce que j'ai mis donc en gras. Alors, de quoi s'agit-il ? Très probablement donc d'un rassemblement en vue d'un culte communautaire. Alors c'est plus clair dans un autre passage, Lévitique 23, verset 3. « Durant 6 jours, on fera son travail, mais le 7e jour est un sabbat, un jour de repos. Il y aura une assemblée cultuelle, et vous ne ferez aucun travail ce jour-là. C'est un sabbat en l'honneur de l'Éternel, partout où vous habiterez. » Donc là, c'est plus clair. On comprend aussi quel est le contenu de ce jour consacré à l'Éternel. Ce jour est consacré à l'Éternel, puisqu'il y aura un rassemblement cultuel ce jour-là. Le temps de repos imposé par la loi est donc un temps de culte communautaire. Et on voit déjà là se rapprocher deux notions, celle donc de repos et de culte. Le sabbat, c'est le repos, mais c'est aussi un moment de culte communautaire. Nous aussi, encore aujourd'hui, nous consacrons une journée, en tout cas une demi-journée, une matinée, pour le culte communautaire, une fois par semaine. Les 10 commandements se répètent, comme je l'ai dit, donc Exode 20 et Deutéronome 5, et dans Deutéronome 5, on voit quelques différences par rapport à Exode 20 concernant le commandement du sabbat. Donc observe le jour du sabbat pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni tout ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a commandé de célébrer le jour du sabbat. Alors, vous avez remarqué à la fin cette petite explication, cette petite notice qui explique que le jour du sabbat est à vivre en souvenir de la délivrance d'Égypte. Donc là, on a un autre parallèle qui est établi entre finalement les 6 jours de travail et l'esclavage en Égypte et le sabbat et la libération du peuple d'Égypte. Donc le sabbat, c'est aussi une image finalement du salut. Hein, on doit respecter le sabbat en souvenir de l'esclavage en Égypte et de la libération de Dieu. C'est ce qui est dit clairement au verset 15, hein, pour se souvenir de cette grande délivrance, commémorer la libération d'Israël de l'esclavage en Égypte. Ce que Dieu a fait, il s'est reposé, hein, le 7e jour est mis en parallèle avec ce que Dieu a fait quand il a fait sortir le peuple d'Égypte. Le peuple de Dieu a pu se reposer. Donc le repos, en plus d'être le culte, c'est aussi le salut. On le voit ici dans ce texte. On voit en tout cas un lien très fort. Et voilà en gros, déjà avec ces 3 textes qu'on a pu lire, tout le sens et toute la richesse du thème du sabbat dans toute la Bible. Le sabbat, c'est le repos, le culte et le salut. C'est ces 3 choses, en fait. Et cette ligne d'interprétation, on le verra, qui est présente donc dès le Pentateuque, dès les premiers livres de la Bible, sera confirmée, développée tout au long de la Bible. Le sabbat, c'est un des signes aussi de l'alliance de Dieu avec son peuple. Hein. Ça fait partie de ces signes de l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël. Le sabbat est saint pour Israël et pour le Seigneur. Celui qui ne le respecte pas, nous disent certains textes, est alors passible de peine de mort. C'est un signe de l'alliance. Donc celui qui ne voulait pas respecter le sabbat, c'est comme s'il se mettait en dehors de l'alliance, à l'écart de l'alliance, et il était donc retranché du peuple. Une punition extrêmement sévère. Que disent les prophètes du sabbat? Alors, on a dans le livre d'Ésaïe le véritable respect du sabbat s'exprime par un attachement au droit, au salut et à la justice de Dieu. Voici ce que dit l'Éternel: faites ce qui est juste et respectez le droit, car je vais bientôt vous sauver, je vais faire justice. Bienheureux sera l'homme qui agira ainsi, heureux sera celui qui s'y appliquera, qui respectera le sabbat et ne le profanera pas, et qui s'efforcera de ne faire aucun mal. Le jour du sabbat n'existe pas pour qu'on se repose, pour se consacrer à ses problèmes personnels, mais vraiment pour qu'on se réjouisse du Seigneur. On le voit encore dans Ésaïe. Si le jour du sabbat tu ne travailles pas, si tu t'abstiens de traiter tes affaires en ce jour qui m'est consacré, si pour toi le jour du sabbat est un temps de délices, si ce saint jour de l'Éternel tu le tiens en estime, et si tu le respectes en t'abstenant de faire ce qui te plaît, de traiter les affaires et de tenir de longs discours, alors tu trouveras ta joie en l'Éternel, et sur les hauteurs du pays je te transporterai et je te donnerai la pleine jouissance du patrimoine de Jacob, ton ancêtre. L'Éternel a parlé. Et enfin, le sabbat, on apprend aussi qu'il sera célébré toujours dans la nouvelle création. Alors, quelle réalité cela représente, je n'en sais rien, mais dans Ésaïe 66, verset 23, on est dans ce texte qui nous parle de la nouvelle création. Il adviendra alors que régulièrement à la nouvelle lune et à chaque sabbat, tous les humains viendront pour se prosterner devant moi, déclare l'Éternel. Chez un autre grand prophète, Ézéchiel, on voit que la profanation des sabbats est liée à l'idolâtrie. On a donc un texte, je ne vais pas forcément maintenant le lire, mais en fait, quand le peuple ne respecte pas le sabbat, c'est comme s'il refuse d'entrer dans la bénédiction de Dieu, et le peuple, du coup, se coupe des commandements qui donnent la vie, nous dit ce texte. C'est Ézéchiel 20, 11 à 13, verset 16, verset 24 aussi. À la fin du livre aussi d'Ézéchiel, vous savez qu'il y a 9 chapitres assez énigmatiques, où on a la description très précise d'un temple, où d'ailleurs un ange demande à Ézéchiel de tout mesurer, etc. C'est assez étrange, ces 9 derniers chapitres, mais dans ces 9 derniers chapitres, on voit que le respect du sabbat, c'est le respect finalement de Dieu, du véritable culte. Et c'est vraiment mis en avant dans plusieurs passages. Je ne vais pas non plus les lire là, mais Ézéchiel 44, 24, et puis Ézéchiel 46 aussi. Chez d'autres prophètes, on constate que le respect ou le non-respect du sabbat est un indicateur aussi de la relation avec le peuple. Dans Néhémie, dans Amos et chez Jérémie également. Mais on va maintenant passer au Nouveau Testament. Respecter le sabbat, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui ? Alors il faut quitter l'Ancien Testament pour répondre à cette question et regarder comment Jésus, les apôtres et les premiers chrétiens ont vécu le sabbat. Ce qu'on peut déjà noter, c'est que Jésus ne respecte pas le sabbat à la manière des pharisiens. Lorsque Jésus est accusé par les pharisiens de ne pas respecter la loi, il affirme qu'il est le Seigneur du sabbat, le maître du sabbat. Luc 6, versets 1 à 10, vous connaissez ce texte. Donc, où Jésus guérit quelqu'un qui avait une main paralysée le jour du sabbat. Et les pharisiens n'apprécient pas tellement. Alors non seulement cela signifie que Jésus a l'autorité, même sur la loi, une autorité supérieure à la loi, mais lorsqu'il dit qu'il est le maître du sabbat, il ne veut pas seulement dire que finalement il est au-dessus de la loi, il veut aussi dire que c'est lui qui va accomplir les bénédictions du sabbat. Dans ce sens-là, il est aussi le maître du sabbat, c'est lui qui vient accomplir finalement toutes les bénédictions liées au sabbat. Voilà, je ne prends pas forcément le temps de lire ces 10 versets, mais voilà, on voit effectivement que Jésus dit après, « Est-il permis ?» le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal. Et puis ensuite, il guérit l'homme. On trouve aussi un autre verset assez important pour notre parcours biblique, un petit peu sur ce thème du sabbat. Jean 5, 17, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est un verset qui nous dit finalement que l'œuvre du Père, finalement, elle est accomplie par l'œuvre du Fils. Et on trouve là confirmation que le septième jour, Dieu n'est pas complètement inactif. Dieu est toujours à l'œuvre et c'est le Fils qui accomplit aussi l'œuvre du Père. Et c'est juste avant aussi ce verset dans Jean 5 que Jésus a guéri aussi quelqu'un, un malade, le jour du sabbat. Jésus est justement venu accomplir toutes les bénédictions du sabbat qui finissent par mettre fin au règne de la souffrance et de la mort. Le sabbat éternel, le repos éternel. On s'aperçoit que les premiers chrétiens, quand on lit les épîtres notamment, n'ont pas respecté le sabbat de façon légaliste. Certes, le livre des Actes nous rapporte que les premiers chrétiens allaient au temple le jour du sabbat. Il y a même des textes qui disent que tous les jours, ils se rendaient dans la cour du temple, hein, au début, et puis après c'était le jour du sabbat. Mais d'un autre côté, Paul, dans ses épîtres, nous conseille plutôt de ne pas observer le sabbat, car cela reviendrait à se placer sous le régime de la loi de l'Ancien Testament. À présent, vous connaissez Dieu, bien plus Dieu vous a reconnu comme sien. Comment se peut-il alors que vous retourniez à ces principes élémentaires sans pouvoir ni valeur pour en devenir à nouveau les esclaves? Vous observez les jours spéciaux, les nouvelles lunes, certaines saisons et certaines années. Ah, je crains fort que toute la peine que je me suis donnée pour vous n'ait été inutile. Et puis, dans Colossiens 2, versets 16 et 17, c'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez, ou au sujet de l'observance des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Avec l'évangile, la loi n'a plus de valeur contraignante. Le chrétien, c'est celui qui, en Jésus-Christ, n'est plus soumis à la loi de l'ancienne alliance, puisque celle-ci est surpassée et accomplie par Jésus. Il y a bien les deux. On voit ça de toute façon dans l'épître aux Hébreux. C'est vraiment le thème vraiment principal de l'épître aux Hébreux, c'est de dire que la nouvelle alliance en Jésus est supérieure à l'ancienne alliance parce que la nouvelle alliance accomplit l'ancienne. C'est d'ailleurs dans un passage de cet épître qu'on a un long développement sur cette notion de repos. En effet, c'est nous qui croyons qui entrons dans ce repos, conformément à la parole de Dieu quand il a dit « C'est pourquoi dans ma colère j'ai fait ce serment, ils n'entreront pas dans mon repos. » C'est ainsi que Dieu a parlé alors que son œuvre était achevée depuis la création du monde. En effet, il est dit quelque part à propos du septième jour « Et Dieu se reposa le septième jour de tout son travail. » Et dans notre texte, en fait c'est le psaume 95 qui est cité, il dit « Ils n'entreront pas dans mon repos. » Il demeure donc établi que certains doivent entrer dans ce repos. Or ceux qui ont les premiers entendu cette bonne nouvelle n'y sont pas entrés parce qu'ils ont désobéi à Dieu. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour qu'il appelle aujourd'hui, lorsqu'il dit beaucoup plus tard dans les psaumes de David ces paroles déjà citées « Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas. » En effet, si Josué avait assuré le repos aux Israélites, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. C'est donc qu'un repos reste pour le peuple de Dieu, un repos semblable à celui de Dieu le septième jour, car celui qui est entré dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe dans la désobéissance à l'exemple des Israélites. En Jésus, le sabbat, le repos et le salut sont finalement des termes aussi voilà, qui se rejoignent, tout comme on l'avait déjà vu dans les premiers livres de la Bible. Le sabbat en tant que culte dans le Nouveau Testament est peut-être un petit peu moins présent, mais on le voit par exemple dans l'Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse. L'ultime repos, c'est de rendre un culte au Seigneur trois fois saint. Certains disent d'ailleurs que le sabbat, dans cette perspective-là, ce n'est pas un jour sur sept, mais c'est sept jours sur sept. Alors voilà pour ce parcours biblique sur le thème du sabbat. Et maintenant, deuxième partie, un petit peu de cette étude sur le repos. Donc c'est le sabbat, mais aussi les loisirs. Alors les loisirs, est-ce que la Bible nous parle des loisirs? Alors j'ai essayé de voir tout ce qui pourrait se rapprocher d'un loisir, et puis on va voir si du coup la Bible en parle ou pas. J'ai pensé d'abord aux fêtes qui sont mentionnées dans l'Ancien Testament. Il y en a quand même pas mal. Ce n'est pas tout à fait les loisirs au sens moderne du terme, on est bien d'accord. Mais il y a quand même la fête des trompettes, le jour des expiations, la fête de la Pâque, la fête des tentes, la fête de la Pentecôte, qu'on appelle aussi la fête des semaines. Ces fêtes étaient organisées, bien sûr, selon un cérémonial bien défini. Ça laissait assez peu de place à l'improvisation. Et voilà. Et au temps libre, ces fêtes étaient organisées à la fois au temple ou la synagogue et dans la famille. Donc il y avait une dimension qui était religieuse, mais il y avait aussi une dimension qui était sociale, familiale, en comprenant la notion de famille, pas seulement les parents, les enfants, mais c'était des grandes familles qui se réunissaient pour ces fêtes. D'ailleurs, les immigrés et les indigents étaient aussi associés à ces fêtes. Et on le voit dans au moins deux textes. C'est pas un loisir comme on l'entendrait aujourd'hui, parce que finalement tout repose sur la relation avec Dieu. Mais c'est quand même dans ce cadre de la relation avec Dieu que les êtres humains sont appelés à trouver leur bonheur. Il y a un psaume qui dit « En dehors de toi, Seigneur, je n'ai aucun plaisir sur la terre. » Psaume 73, verset 25. Les jours de fête, comme le sabbat, étaient consacrés à la prière, donc à la méditation, à l'étude de la Torah. Pendant le sabbat, il était possible de rencontrer des amis, mais en aucun cas on pouvait travailler ce jour-là. D'ailleurs, dans le Talmud, il précise 39 activités qui sont interdites le jour du sabbat. Et pour un juif strict, ces interdictions vont donc très loin. Il ne peut pas prendre le train, par exemple, le jour du sabbat. Il ne peut pas prendre la voiture. Il ne peut pas prendre l'ascenseur non plus. Il ne peut pas allumer un feu. Il ne peut pas allumer une lampe. Il ne doit rien porter non plus dans sa poche. Alors, toutes ces règles peuvent paraître peut-être étranges. Je pense qu'elles, voilà, vraiment, elles le sont, étranges, mais il faut quand même reconnaître que si, du coup, quelqu'un respecte tout ça, ben, il sort du rythme de la vie habituelle complètement. Et donc, il peut vivre, du coup, un vrai temps de sabbat et de repos. Alors, qu'est-ce qui pourrait se rapprocher le plus des loisirs au sens moderne du terme? Alors peut-être les banquets, les chants, les danses. Alors ces banquets, ces chants, ces danses avaient leur place dans la vie du peuple, hein, lors de certaines fêtes, mais plutôt des fêtes de tradition plus tardive, comme la fête de la dédicace ou surtout la fête de Pourim ou la fête des sorts. Alors là, il y avait beaucoup de joie, beaucoup de banquets à l'occasion de ces fêtes. C'est pas interdit de faire la fête, pourvu que cela ne devienne pas quelque part une sorte de débauche, d'orgie ou d'idolâtrie. Ecclésiaste 11, verset 9 nous dit « Jeune homme, réjouis-toi pendant ton adolescence, que ton cœur te rende heureux pendant les jours de ta jeunesse. » Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Donc, se réjouir et faire la fête n'est absolument pas interdit, c'est même conseillé, mais sans tomber dans une forme d'idolâtrie, dans une forme de débauche. On peut penser également aux périodes de moisson et de vendange, qui étaient l'occasion de rassemblements et de fêtes très populaires. Les fiançailles aussi, les noces qui étaient des occasions de se réjouir. Les fiançailles duraient une semaine quand même. Mais force est de constater quand même que lorsqu'on lit l'Ancien Testament, les passages qui nous parlent le plus de joie sont finalement celles de la relation avec Dieu, de trouver son plaisir en Dieu. Dans les psaumes notamment, on peut lire « Dans mon cœur, tu mets plus de joie que ces gens n'en trouvent à récolter tout leur blé et tout leur vin. » Que le Seigneur soit votre joie, psaume 32, verset 11. Notre cœur se réjouira en lui puisque nous avons mis notre confiance dans son Saint-Nom. Pour le croyant, de l'Ancienne Alliance, l'expérience de la foi, c'est cela qui est au centre finalement du bonheur à vivre. Qu'en est-il dans la Nouvelle Alliance? Alors Jésus n'était pas un rabat-joie, il était quand même présent aux noces de Cana et il a tout fait pour que la fête puisse continuer et se dérouler dans de bonnes conditions avec le vin qui n'a pas manqué. Un vin dont le texte nous dit qu'il était bon en plus, voire excellent. Les pharisiens reprochaient à Jésus d'être un mangeur et un buveur, c'est-à-dire que Jésus acceptait les invitations qui lui étaient faites pour aller rencontrer des personnes, manger avec eux, boire avec eux, festoyer en quelque sorte. Et les pharisiens lui reprochaient cela. Mais le fait que Jésus acceptait ces invitations-là nous prouve qu'il y a une place pour les plaisirs de la vie, une saine place pour les plaisirs de la vie. Dieu a créé de belles et de bonnes choses pour notre bonheur. Alors bien sûr, le Nouveau Testament nous dit de renoncer à ce qui est futile, aux plaisirs qui sont futiles dans ce monde, mais il n'est pas pour autant interdit de rechercher tout plaisir. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Les disciples étaient remplis de joie aussi et d'Esprit Saint, acte 13. Et puis un texte aussi où Jésus prend un moment de repos à part avec ses disciples, Marc 6, versets 31 et 32. Jésus connaît notre besoin de repos, de ressourcement. Il y a un chrétien qui a dit « Dieu m'a donné un message et un cheval, mais j'ai tué le cheval. » Ce qui voulait dire, Dieu lui a donné un message, c'est celui de l'évangile que nous devons partager, et un cheval, mais le cheval c'est lui, c'était lui, hein, c'était sa personne. Il nous a donné un message et un cheval, on pourrait dire le cheval c'est notre corps aussi, hein, mais j'ai tué le cheval, peut-être parce qu'il ne lui avait pas accordé assez de repos. Et à un moment donné, il se retrouve sans force et ne peut plus du coup porter ce message de l'évangile. Servir Dieu dans la durée, c'est aussi prendre soin de soi. Nous avons besoin de repos et Dieu le sait. Ça n'aurait pas de sens de s'oublier au point de dépérir. Parce que sinon, on ne peut plus rien faire. Aujourd'hui, on parle d'ailleurs du burn-out ou des choses comme... quand on est en burn-out, on peut plus faire grand-chose. Il faut prendre soin aussi de soi aussi pour cela, rester équilibré. Jésus s'est présenté comme le maître du sabbat, on l'a déjà vu. Et en fait, toute la vie du disciple est sous le signe du sabbat et du repos. Parce que Jésus a dit, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et dans le texte qu'on a lu tout à l'heure dans Hébreux 4, « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. » Empressons-nous d'entrer dans ce repos. Alors les loisirs, on n'a toujours pas abordé la question des loisirs avec tout ça. Hein. C'est qu'en fait, tout ce qui est loisirs modernes, bien évidemment, n'est pas mentionné dans la Bible. Hein. Il n'y a pas les escape games, par exemple, les jeux vidéo et tout ça, bien évidemment, ça n'existait pas. Comment on pourrait définir les loisirs? Alors une définition des loisirs que j'ai trouvée, c'est ce qu'on choisit de faire sur notre temps libre. Ce qu'on choisit de faire sur notre temps libre, c'est un loisir. On a le loisir de le faire. C'est sur notre temps libre et on le choisit, parce qu'il y a des choses des fois sur notre temps libre qu'on doit faire aussi. Ce n'est pas un loisir. Par exemple, je dois faire mes courses. Ou d'autres choses, on ne peut pas considérer ça comme un loisir, on doit le faire. Non, mais c'est ce qu'on choisit vraiment de faire sur notre temps libre. Alors, on vit dans une société où les loisirs sont abondants. Ça ne vous aura pas échappé, ils se multiplient, on en invente sans cesse de nouveaux. Le risque est grand, alors, de vouloir trouver notre épanouissement dans la consommation des loisirs. Les loisirs que nous vivons plutôt le week-end, parce que le reste de la semaine, nous sommes occupés par notre travail. Nous consommons beaucoup de loisirs dans notre société. C'est un business aussi très rentable. En tant que chrétien, il nous faut apprendre à gérer avec sagesse et modération, donc au moins sur deux aspects, la gestion du temps. Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que mes loisirs ne me prennent pas trop de temps? Du coup, je suis très pressé pour faire les choses utiles. Et puis, le coût aussi. Sans oublier notre relation avec Dieu, la vie de famille, les frères et sœurs de l'Église, notre prochain. Il ne faudrait pas que nos loisirs nous empêchent de prendre soin de ceux qui sont autour de nous. Alors, le sport... Parmi les loisirs, on peut noter le sport. Alors, le sport aujourd'hui, c'est vraiment aussi devenu un loisir. C'est rare qu'il y en a qui font du sport pour vraiment le sport, disons, ça existe, mais c'est aussi un loisir, le sport. Hein. Une fois par mois, par exemple, on fait un peu de volley, c'est avec quelques personnes de l'église, c'est un loisir. Le sport a pris d'ailleurs énormément de place dans notre société, et c'est une bonne chose. Hein. Le sport implique la volonté de prendre soin de son corps, ça c'est important, en le maintenant dans une bonne forme. Les activités sportives procurent du repos, elles permettent d'évacuer aussi le stress, ça favorise le développement de la persévérance aussi dans l'effort, le respect de soi des autres, et puis pour les sports collectifs, l'esprit d'équipe. Donc il y a vraiment énormément de vertus au sport. Dans l'Antiquité d'ailleurs, Paul, par exemple, ne pratiquait pas forcément un sport, mais il marchait énormément, beaucoup plus que nous. Et lorsqu'il devait fabriquer des tentes, eh bien, c'était une activité très physique aussi. L'exercice physique, le sport, c'est une composante indispensable à notre hygiène de vie, à chacun d'évaluer ses besoins et ses possibilités, le temps qu'on peut y consacrer dans ce domaine. Autre loisir que je vois, les activités culturelles sont aussi une forme de loisir qui participe à notre épanouissement. Il y a un proverbe 2, verset 10, qui dit que la connaissance fait les délices de l'âme. Et effectivement, la plupart des activités culturelles, en fait, sont des occasions aussi de glorifier Dieu. « Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse », a dit David. « Tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien. » Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui y prennent plaisir. Psaume 111, verset 10. Alors les loisirs d'ordre culturel, ça va, il y a toute une palette hein, aussi. On peut tout simplement profiter d'une balade, l'observation de la vie animale, écouter le chant des oiseaux, mais écouter aussi de la musique qui a été composée aussi, les grandes symphonies, faire de la peinture, voilà, etc., etc. La culture, en fait, enrichit notre personnalité. Elle permet même d'agrémenter le culte personnel et public, ainsi que notre service pour Dieu. Le dernier psaume de la Bible, le psaume 150, mentionne tout un tas d'instruments avec lesquels on peut louer Dieu. On va pouvoir utiliser aussi l'art ou certaines manifestations culturelles pour l'évangélisation. Le théâtre, le cinéma, le chant, la poésie, la littérature, etc. Donc il y a quand même énormément de bons loisirs, de loisirs sains, j'ai envie de dire. Qu'en est-il des autres formes de divertissement? Alors, le chrétien est d'abord quelqu'un qui a trouvé le sens de sa vie en Jésus. Pour être joyeux, nous ne devrions pas avoir besoin de remplir notre vie de toutes sortes de plaisirs secondaires. Cela dit, la Bible ne condamne pas les plaisirs. Toujours dans un cadre, mais la Bible ne condamne ni la sexualité, ni le fait de boire du vin de façon modérée, ni le fait de se détendre, de jouer et d'avoir des loisirs. En fait, ces choses, elles posent problème à partir du moment où elles deviennent des idoles, à partir du moment où on y est attaché de façon indispensable et où on y trouve une sorte de presque de drogue, j'ai envie de dire, ou d'étourdissement. les loisirs représentent un danger quand ils prennent une place qui est excessive, quand ils vont prendre tout notre argent ou tout notre temps, et que du coup on n'a plus rien ni pour nous-mêmes, d'ailleurs des fois, ni pour les autres en tout cas. Quand ils viennent remplir ces loisirs de façon compulsive, un vide qui est en nous, qui ne peut pas être rempli d'ailleurs par les loisirs, ou lorsque on utilise les loisirs comme un échappatoire face à nos problèmes. Mais s'ils sont bien vécus dans la modération, si les loisirs ne sont ni une addiction, ni une fuite de la réalité, ni la poursuite d'un rêve artificiel, alors les loisirs bien vécus sont tout à fait permis. C'est pas parce qu'on peut faire un mauvais usage d'une chose, en l'occurrence des loisirs, que cette chose est mauvaise en elle-même. C'est une question de modération. Alors il y a quelques questions qui peuvent nous aider pour peut-être gérer nos loisirs. La première, elle est peut-être bête, mais elle me semble la plus importante. Est-ce que mes loisirs me reposent vraiment ? Est-ce que mes loisirs me reposent ? Parce que le but quand même d'un loisir, c'est de se détendre, c'est d'être reposé. Est-ce que mes loisirs me reposent ? Et la question n'est pas si bête en fait, elle paraît simple, mais il y a peut-être des loisirs qui peuvent nous stresser et qui finalement ne nous reposent pas intérieurement. Je pense que certains jeux vidéo, par exemple, avec beaucoup d'action, sont plutôt des excitants que des reposants, si on peut parler comme ça. Attention à ne pas être plus fatigué après un week-end rempli de loisirs que par notre semaine de travail. Et il y en a pour qui c'est le cas. Ils engrangent énormément de loisirs pendant le week-end, si bien qu'ils sont fatigués. Ouais, le lundi matin, plus fatigués que le vendredi soir. Et ils ont toute la semaine pour se reposer. Comment nos loisirs nous nourrissent-ils ? Comment je me sens ? Comment ça me transforme ? Est-ce que ça m'aide à vivre une vie équilibrée ? Quelles sont les implications de mes loisirs dans la gestion de mon temps ? Est-ce que du coup, à cause d'un loisir, après je dois faire tout vite ou négliger certaines choses ? Parce que j'ai pris du temps à un loisir et donc je ne l'ai pas pour autre chose. Est-ce que de façon générale, mes loisirs m'aident à mieux aimer Dieu et mon prochain ? Est-ce que ça facilite ce que Dieu me demande ou est-ce que ça l'entrave ? Voilà un peu toutes les questions qu'on peut se poser pour, et c'est en fait à chacun en fait, d'y répondre, hein, pour une saine et sainte gestion des loisirs. Alors pourquoi notre monde, en conclusion, pourquoi notre monde a une telle soif de loisirs ? Ben, je pense que c'est parce qu'il n'a pas ou alors peu d'espérance. Comme la vie est courte, si je n'ai pas une perspective éternelle, alors je vais tout faire pour en profiter un maximum. Et je ne vais pas me poser de questions. Mais si je sais que j'ai une espérance, alors je vis dans ce monde en sachant que ben, la vie, ce n'est pas la vie que je vais vivre sur cette terre telle qu'on la connaît maintenant. Eh bien, ce n'est pas le tout de ma vie. Les loisirs donc peuvent prendre leur place, mais une place secondaire dans notre vie au service de Dieu en premier. Donc voilà pour cette réflexion donc de ce soir, le repos, le sabbat et les loisirs.